Ma ville, ma région, l'actualité de Dijon Métropole.
Chères auditrices, chers auditeurs de Shalom Bourgogne, j'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Madame Catherine Hervieux, députée de la deuxième circonscription de Côte d'Or.
Tout à fait.
Depuis 2024, et qui appartient au groupe Les Écologistes, alors je ne sais plus ce que veut dire le sigle EELV, mais vous allez me le dire.
Europe Écologie Les Verts.
Voilà, donc nous allons évoquer évidemment un sujet qui est lié à l'engagement politique de Madame Hervieux, qui est celui de l'écologie, mais surtout celui de la crise climatique, du réchauffement climatique. Donc je voulais vous demander, Madame la députée, déjà, quels étaient aujourd'hui, parce que les choses bougent vite, les principaux enjeux de la question du réchauffement climatique.
Alors déjà, vis-à-vis du grand public et par rapport aussi à ce qu'on constate dans notre quotidien face aux conséquences du changement climatique, justement, plutôt que dire réchauffement climatique, on va parler de changement climatique, de dérèglement climatique.
D'accord.
Ça pose plus de façon plus réaliste ce qui est en train de se passer. Si on prend par exemple la grande vague de froid qui a descendu, qui a concerné une partie du Canada et des États-Unis jusqu'aux limites de la Floride, on a eu M. Trump qui disait « mais qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? Ou le changement climatique, le réchauffement climatique, ça n'existe pas. Vous voyez, on a froid et c'est l'hiver. » En fait, cette grande vague de froid, c'est une des conséquences du changement climatique qu'on constate avec le déplacement des grandes masses d'air froid qu'il y a au pôle en fonction de la rotation de la Terre autour du Soleil, mais aussi la question aussi des grands épisodes météorologiques, les trombes d'eau, toutes ces formules maintenant qu'on commence à connaître avec ce qui s'est passé en Espagne ou au Portugal ces derniers jours, etc. Le constat, c'est que là, on est à 10 ans de cet accord de Paris pour le climat en 2015, qui avait suscité une vague d'espoir, puisque c'était un accord planétaire. Mmh. C'était la première fois que l'ensemble, je dis bien tous les pays de la planète, plus l'Union européenne, avaient signé un accord, et c'était une grande première dans l'histoire de l'humanité. Alors, les limites de cet accord, c'est qu'il n'était pas financé et c'est qu'il n'était pas contraint financièrement. Et on en paye aujourd'hui les conséquences. C'est-à-dire qu'en fait, nous savons que certains pays, de par le mode de vie des habitants, et si on reprend encore la référence états-unienne, où il faut les ressources de 10 planètes chaque an pour maintenir ce modèle américain de surconsommation, tout très grand, tout très fort, les Big Mac, les grosses voitures, etc. Je caricature un peu, mais c'est quand même ça, versus les pays les plus pauvres qui survivent, dont les populations survivent avec pas grand-chose, et quand ils ne sont pas en guerre en plus. On pense à l'Afrique de l'Est notamment.
Peut-être que vous rappeliez les objectifs de Paris et des COP qui suivaient, les grands objectifs et où on en est.
Tout à fait. L'objectif, c'était en 2015 de ne pas dépasser l'augmentation, là pour le coup, du réchauffement des températures moyennes sur Terre de plus 1,5 degré. Alors ce sont des moyennes, bien évidemment, sur l'ensemble de la planète. Et là, nous sommes 10 ans après, nous sommes sur une trajectoire où de toute façon, ça, ce n'est plus possible si on ne fait rien de façon, enfin, si on continue comme avant. Et on est plutôt sur une trajectoire à une augmentation de plus 2 degrés. Donc plus 2 degrés en moyenne sur l'ensemble de la planète. En 2050, ça veut dire que certains territoires, certains départements en France vont être difficilement vivables une bonne partie de l'année. Qu'il y aura aussi des conséquences par rapport au modèle agricole, la production agricole, et puis la qualité de vie aussi pour les gens. Est-ce qu'on survit, est-ce qu'on vit très bien quand on est plusieurs nuits de suite dans des températures à plus de 30 degrés dans les habitats, dans les maisons, les appartements que nous avons actuellement. Ça, c'est connu. Les collectivités essayent de faire des choses. L'Union européenne, la France avait justement, suite aux accords de Paris, engagé des stratégies bas carbone à l'horizon de 2030 puis de 2050. Mais depuis 2015, vous n'aurez pas échappé qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de formations politiques, mais aussi beaucoup, beaucoup de lobbies qui ont dit « mais nous, c'est pas possible, ça, c'est trop contraignant, on veut continuer à faire comme avant pour... on va pas, excusez-moi l'expression, mais emmerder les gens. » Donc ça, c'est sur le registre politique pour aller chercher des parts électorales. Et puis sur le volet industrie, le volet énergie aussi, on a une fuite en avant concernant les énergies fossiles, où on continue à forer, on continue à essayer de trouver des puits de pétrole, des ressources gazières, et Donald Trump s'évertue à nous vendre son pétrole issu des roches, les gaz de schiste dont on ne veut pas en Europe, mais qu'on importe des États-Unis, parce qu'entre-temps, eh ben, effectivement, on a eu le Covid, hein, qui a fragilisé toutes ces chaînes d'approvisionnement et toute l'organisation économique internationale, et puis la guerre en Ukraine aussi, qui, en cascade, a généré d'autres priorités par rapport aussi au financement, qu'est-ce qu'on finance, quelles sont les priorités. Et puis, il y a eu aussi des élections au niveau européen en 2024 qui ont amené des droites dures et des extrêmes droites qui ne veulent pas s'approprier du changement climatique.
Oui, même si en Europe, il ne semble pas que... on est jusqu'à la désinformation totale, c'est-à-dire que la problématique est reconnue, mais les choses sont détricotées tout doucement. On reviendra sur la France après. Vous avez parlé un peu des impacts sur la santé, hein, des stress thermiques, etc. Et apparemment, ça pourrait avoir des effets aussi sur les écosystèmes, enfin globalement.
La biodiversité, oui. Hein. L'état des forêts. Les forêts, on commence à avoir un recul depuis les années 2000. Les forêts... Justement, en 2015, on pensait qu'elles pouvaient contribuer à atténuer les gaz à effet de serre, à régénérer, à capter le carbone. Et en fait, on se rend compte qu'on ne peut pas ou presque pas s'appuyer sur les ressources de la forêt en tant que captation du carbone, du fait de leur fragilisation liée, pour le coup, aussi au changement climatique.
Alors, malgré ça, il y a quand même eu des COP. Enfin, les COP se continuent, parce que je crois que la dernière était... Il y en a eu une au Brésil, je crois.
Oui. Il
y a quand même une...
Ça continue.
Le mouvement continue quand même.
Alors, il y a une volonté quand même, parce qu'au milieu de ce tableau qui peut sembler très noir, comme je viens de le décrire, et vous avez raison de le souligner, il y a la poursuite des travaux du GIEC avec ces réunions, des conférences des parties régulières. Et c'est très bien parce que c'est encore des moments de multilatéralisme, même s'il n'en sort pas, des décisions qui prennent vraiment... la mesure des urgences et la répartition aussi des moyens pour agir, quel que soit le pays. Et de ce point de vue-là, en tant qu'écologiste, avec mes collègues, on plaide et on œuvre pour qu'il y ait une solidarité entre les pays. Il y a des pays qui sont plus riches que d'autres et que la bataille du climat, de toute façon, elle doit embarquer l'ensemble des pays. C'est pas les pays c'est pas les pays les uns contre les autres, les populations les unes contre les autres. Alors quand je dis ça, ça peut paraître naïf dans le monde hostile dans lequel nous sommes, où il y a de la brutalité à la place de la diplomatie, mais il faut maintenir le cap du multilatéralisme comme avec les COP et comme avec l'ONU, comme avec l'UNESCO, l'UNICEF, l'OMS, même si les États-Unis se retirent de toutes ces instances internationales.
Oui, puis en se retirant, ils retirent l'argent. Donc,
ils retirent l'argent, mais il faut que l'Union européenne prenne conscience, et les habitants prennent conscience que nous constituons une richesse, pas que en termes d'argent, mais en termes d'histoire, en termes de partage des valeurs et en termes de... on est un espèce continental où il y a quand même aussi un modèle social et un modèle démocratique qui embête certains régimes autoritaires.
C'est sûr, mais la question de l'argent est posée, parce que pour faire des choses, il faut de l'argent. Donc l'argent, il faut
le trouver.
Ah, mais
c'est des vrais choix.
Ça voudra dire aussi demander aux populations de faire de faire des choix et peut-être de sortir aussi d'un modèle d'ultra-consommation, même en Europe.
Il faut qu'on balaye devant nos portes par rapport à nos contradictions.
Parce qu'on ne peut pas toujours accuser les États-Unis et les autres
de
tous les maux. Ça paraîtrait un petit peu juste. J'ai vu que la Cour internationale de justice, d'ailleurs, en 2025, avait rappelé les obligations des États. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de contrainte, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de contrainte ni financière ni concrète. Quoi. Donc,
Alors que ça marche quand il y a des contraintes. Si on reprend, par exemple, les enjeux sur la qualité de l'air, où on a une directive européenne qui est assez intéressante concernant certains polluants, pas l'ensemble des polluants, mais au moins ceux qui nous ont explosé à la figure dans les années 60-70 avec l'explosion du trafic routier. Il y a eu des améliorations concernant les dioxydes d'azote, le dioxyde de soufre avec le chauffage urbain. Donc, il y a des contraintes financières. Si on ne respecte pas les seuils édictés par cette directive européenne, les États membres doivent, au bout d'un moment, des rappels à l'ordre et tout, sont soumis à amende. Et c'est ce qui est arrivé à l'État français qui devait trouver la réponse avec les fameuses... Une des réponses avec les fameuses zones à faible émission.
Oui, mais les fameuses zones qui sont remises en cause, si j'ai bien compris.
Sont remises en cause par des gens qui, comme je disais tout à l'heure, caressent l'électorat dans le sens du poil de façon démagogique.
Oui, ce qui peut être toutes sortes de mères, de toutes sortes de tendances.
Tout à fait.
Si j'ai bien compris. Alors, peut-être une question fondamentale, vu ce qu'il se passe, vu les messages qui sont matraqués par les réseaux sociaux, par aussi une littérature pseudo-scientifique. Comment est-ce que vous pensez que la population dans notre pays, on ne peut pas aller plus loin pour l'instant, a compris cette problématique du réchauffement climatique? Est-ce qu'on pense que c'est un acquis intellectuel, un souci, en tout cas chez les très jeunes que nous rencontrons, nous, dans notre travail avec la radio? Les jeunes et les moins jeunes, enfin les très jeunes, sont très sensibles à cette problématique.
Je crois que oui.
Il n'y a pas une remise en cause fondamentale dans notre pays.
Il n'y a pas de remise en cause. Après, ce que je pense, c'est que le fait de faire reposer les efforts sur le plan individuel, avec cette idée un individu, plus une personne, ça va faire de la masse et tout, ça ne suffit pas.
Oui, ça peut être culpabilisant par ailleurs. Enfin,
alors déjà,
c'est ça qu'utilisent certains ennemis de la cause.
On l'a vu avec, par exemple, les voitures électriques. Mmh. Bon, effectivement, il faut décarboner le parc automobile. Mais ça ne suffit pas en tant que tel. Et avec les modèles aussi de réorganisation des villes et même au niveau des intercos, imaginez remplacer une voiture thermique par une voiture électrique. En termes d'aménagement urbain, d'espace urbain et puis de besoins d'infrastructures, ce n'est pas forcément la bonne direction. Mais ça a été une grande orientation prise par différents gouvernements ces dernières années. Puis on voit en ce moment le stop and go sur le volet industriel et tout. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et tout le monde ne peut pas s'acheter une voiture électrique. Ça coûte quand même un certain... Voilà. Donc les gens vivent ça, ils disent « Mais moi, je veux bien, mais comment je fais ?» C'était quand même aussi ce que nous avait dit à l'époque les Gilets jaunes. En gros, il y avait aussi ce volet-là. Et c'est pour ça qu'on a besoin de politiques publiques, et que moi, ça fait partie aussi de mon engagement, que ce soit au niveau local, enfin à tous les échelons, dans les villes, dans les départements, régions, et au niveau national. Mais suffisamment coordonnées, avec un cap, et sans faire des stop and go, comme on voit trop souvent ces dernières années. On fixe un cap, par exemple, sur les mobilités. On sait qu'on a un réseau ferroviaire qui était quand même bien intéressant, avec des infrastructures pour lesquelles on a mis des milliards d'euros depuis des années, des dizaines d'années et tout. Il y a la question de l'entretien, et qui demande des programmations pluriannuelles, bien évidemment. Mais il y a des gens qui sont organisés pour habiter à tel ou tel endroit parce qu'il y avait une halte ferroviaire et ça permettait, effectivement, Donc là, on voit le couplage politique publique de transport en commun et puis organisation familiale, individuelle et tout. Mais quand on ferme cette même halte ferroviaire, vous laissez les gens. Non, ben moi, je veux bien, mais là... Donc on a des incohérences, on a des choses à revoir, à remettre à plat et le plus rapidement possible.
Le budget 2026, alors je ne m'en souviens plus précisément, mais il me semble qu'il y a une réduction des crédits sur la transition écologique importante.
On a effectivement un souci en France avec la façon, enfin, sur l'endettement et le déficit du... Enfin, voilà, ça c'est... Mais après, c'est comment on le résorbe et comment l'effort repose sur les épaules de tout le monde en respectant la fameuse maxime de la Déclaration des droits de l'homme, chacun contribue à la hauteur de ses moyens, au bien commun. Enfin, ce n'est pas exactement ça, mais c'est cette idée. Et c'était tout, enfin, dans les débats budgétaires depuis cet automne, ça a été vraiment un axe de discussion, d'amendement très très important. Et donc, la copie, c'est effectivement la priorité, c'est le régalien. Et puis après, on coupe dans l'éducation nationale, sur la santé, on a l'hôpital encore, on verra si ça va être respecté. Mais aussi sur la transition écologique.
Ouais, bon, j'ai trouvé un chiffre, je ne sais pas ce qu'il vaut. On passerait de 2,5 milliards à 0,65 milliards d'euros. Oui. C'est énorme. Enfin, c'est, ça veut dire que les politiques publiques locales...
Surtout qu'on pique aussi. Enfin, on n'abonde pas les dotations pour les collectivités. Elles diminuent aussi, alors qu'elles n'ont pas contribué à l'endettement.
Alors, surtout les métropoles, d'ailleurs, parce que j'ai vu que les communes étaient relativement moins atteintes, en tout cas, que les métropoles. Alors, en France, comment dans un pays ou dans une commune, on peut faire des choses ? Nonobstant le fait qu'il y a une baisse des financements, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, je fais appel à vous en tant que député, mais aussi en tant que président d'Atmo, par exemple, puisque vous avez des responsabilités dans la surveillance de la qualité de l'air. Donc, comment les politiques publiques peuvent avancer jusqu'au stade de la commune pour à la fois agir, puis à la fois que les gens aient conscience de cet enjeu ?
Dans le cadre des compétences de la commune, il y a déjà... ou même de chacune des niveaux de collectivité, il y a déjà l'exemplarité concernant le bâti, le patrimoine propre de la commune. Bon, beaucoup de communes et de villes, c'est durant ce mandat là qui se termine, ce mandat municipal qui se termine, ont par exemple rénové du patrimoine municipal. Je pense notamment aux écoles. La question des écoles, l'éducation nationale, certes, les professeurs, les enseignants, en lien avec l'État, bien évidemment, mais les conditions d'accueil des élèves dépendent soit des départements, des communes ou des régions. Et il y a beaucoup de chantiers, beaucoup de rénovations thermiques par rapport aux canicules, et puis réduire aussi les factures énergétiques en hiver. Donc ça, il faut le souligner parce que c'est des choses très positives.
Mais qui se font, en tout cas, sur Dijon, j'ai vu que ça se faisait. Oui.
Mais ça se fait partout. D'accord. Ça se fait partout et dans l'histoire du verre à moitié vide, à moitié plein, moi, je trouve que c'est important de le mettre en avant parce qu'on ne part pas de rien. Les choses ne sont pas inéluctables, il n'y a pas rien à faire, les choses se font et l'exemplarité des politiques publiques en la matière me semble tout à fait importante. Et par exemple, cette exemplarité, moi, je ne la retrouve pas dans le bâti que l'État doit gérer. Et si je visite des casernes, puisque dans le cadre de la commission défense, je suis en lien aussi avec les gendarmes, avec les armées, je visite les casernes et je trouve les conditions de vie des gendarmes sur Dijon, la caserne de Flandre ou même dans ma circonscription sont complètement déplorables parce que il n'y a pas eu d'investissement pour l'entretien, la rénovation et ça c'est pas tenable déjà par rapport aussi aux missions à laquelle les gendarmes sont confrontés, les conditions de vie de leur famille, enfin voilà. Et l'État se doit d'être exemplaire quand il incite, par exemple, les bailleurs privés à faire de la rénovation. Il y avait aussi toutes ces classifications avec
les DPE qui ont changé plusieurs fois. Ça agace beaucoup les gens. Hein, ce que vous appelez le stop and go, ça agace beaucoup les citoyens. Et ça ne joue pas en faveur De l'envie d'avancer sur ce dossier.
Tout à fait. Et le fait que l'État ne soit pas exemplaire sur son propre patrimoine, par exemple, ça décrédibilise aussi quand on fait... Alors, l'État, c'est aussi ceux qui font les lois, hein, donc je me mets dedans aussi, mais il y a quand même des choses à revoir sur tout ça, d'autant plus qu'on sait que c'est urgent, là, maintenant. Hein. Mmh.
Et sur les mobilités
Alors, sur les mobilités, il y a eu beaucoup, dans beaucoup de communes et même dans le rural, des choses qui ont été engagées pour l'usage, par exemple, du vélo. On ne s'attend pas... dans l'imaginaire, je pense, un peu de la plupart des gens, on ne s'attend pas à ce qu'on fasse du vélo dans le rural. Mais si, il n'y avait pas que le vélo loisir sur les véloroutes. Moi, j'ai constaté que beaucoup d'intercommunalités, puisque c'est aussi compétence voirie partagée, s'étaient engagées pour faire des aménagements cyclables, permettre des trajets domicile école ou collège pour les jeunes, pour se déplacer de façon active et pas passive dans la voiture des parents. Donc ça aussi, c'est à souligner. Mais encore une fois, si on pique un peu trop on amoindrit les ressources des collectivités, c'est dans les priorités, vous voyez bien que ça va devenir un peu tendu là pour le prochain mandat. Mmh. D'autant plus qu'il y aura il y a le vieillissement de la population qui est énorme, et je refais le lien avec les conséquences du changement climatique. Personnes âgées, quand on est sur des pics caniculaires ou quand on est dans des habitats précaires où c'est compliqué pour se chauffer parce que les fins de mois sont un peu difficiles, on voit bien aussi comment les personnes âgées vont être confrontées, certaines, à des conditions de vie lesquelles il faudra quand même que les pouvoirs publics soient très très vigilants pour éviter des drames.
Mais c'est un gros dossier, on l'a vu pendant le Covid. Hein.
Exactement.
Les difficultés, sachant aussi que... Les quartiers politiques de la ville dont on parle beaucoup parce que c'est une politique d'État depuis de nombreuses années, il y a énormément de personnes vieillissantes aussi qui vivent dans des HLM, de grands HLM encore à l'ancienne, hein, qui sont pas rénovés, qui sont petits, où il fait très chaud ou très froid. Enfin, moi, c'est pas... Effectivement, c'est un petit peu compliqué. La question des mobilités, on y reviendra dans une autre émission parce que là aussi, il y a beaucoup d'agacement parce que après, on est sur des rigidifications. La voiture, quand on a voiture, on est énervé par les vélos et les piétons. Les gens en vélo ne sont pas forcément mieux élevés dans les rencontres sur les trottoirs et au feu rouge. Enfin, on le vit dans des villes comme Dijon, c'est extrêmement compliqué. Ça rencontre peut-être, les gens le disent, je ne sais pas si c'est vrai, une certaine agressivité ambiante, peut-être. Mais en tout cas, c'est réellement compliqué avec des enfants ou une personne qui a du mal à marcher sur les trottoirs aujourd'hui, avec tous ces modalités de circulation. Clairement, ce n'est pas réglé.
Je pense que c'est pas tant la question des modes de déplacement, voiture, trottinette et tout, que la question du comportement de chacun d'entre nous et l'individualisme. On évoquait ça un petit peu tout à l'heure, l'individualisme ambiant, c'est-à-dire que moi je suis dans l'espace public et je ne me préoccupe pas des autres. Et en fait, on a ce souci-là aussi de comment on fait société tous ensemble et comment on est attentif les uns avec les autres en se regardant et sans être dans l'agressivité. La question de savoir, par exemple, les priorités, de se regarder, de se comprendre. On sait faire ça, nous, les êtres humains. Mais quand vous êtes en même temps, vous conduisez, que vous avez les casques, les trucs aux oreilles et que vous écoutez de la musique ou la conversation, puis qu'il faut surveiller, je ne pense pas qu'on soit cognitivement tous hyper flex pour réagir de façon correcte. Et de ce point de vue-là, ça pose effectivement, ça génère des tensions qui se rajoutent à d'autres choses. Et effectivement, je fais aussi ce constat, je me déplace beaucoup en vélo. J'essaye de respecter au mieux et d'être attentif aux uns et aux autres. C'est pas pour me mettre en avant, mais je vois bien. En plus, j'ai pas du tout envie qu'il m'arrive quelque chose, donc je fais doublement vigilance. Mais je vois bien comment, à certaines heures du jour, selon la saisonnalité, c'est pas tout à fait la même chose aussi.
Bon, on y viendra. En tout cas, donc,
c'est la question du partage de l'espace public.
Oui,
en fait.
Bon, faut aussi qu'il y ait qu'il soit bien organisé l'espace et que les règles du jeu soient claires.
Oui.
Qu'est-ce qui est autorisé, pas. Vous parlez tout à l'heure de sanctions et de règles du jeu. S'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de sanctions. S'il n'y a pas de sanctions, ça ne fonctionne pas. On le sait très bien.
Puis il y a de l'éducation à la base. Et puis il y a du... y a des gens aussi qui ont eu leur permis il y a 40-50 ans. Y a aussi des modalités qui ont changé. Il y a des panneaux qui ont changé. Et peut-être aussi
y a plein de choses,
la révision de temps régulière. Mais qu'on soit cycliste, piéton, automobiliste, je pense que ce serait...
Moi, je ne vous cache pas que je ne connais pas les règles. Je vois que tous les vélos passent au rouge partout. Ou monte sur les trottoirs, je ne connais pas les règles. Alors peut-être qu'ils ont droit, mais par exemple, vous voyez ça, en tant que citoyen de Dijon, je ne sais pas.
Bah, par exemple, au feu, à certains feux et à certaines intersections, les cyclistes ont la possibilité de passer au feu rouge si un panneau son soit tourne à droite, qui est bien indiqué en bas du feu, ou ils peuvent aller tout droit si, selon la configuration du carrefour. Et donc, avec ces panneaux sons-là, ces triangles pointe en bas, ils sont autorisés. Et bon, après, il y a des endroits où il n'y a pas de panneaux.
Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup.
Ah, si, il n'y en a pas. Quand j'étais en charge de...
Il y a des piétons aussi.
Oui, mais alors, le piéton doit être toujours prioritaire.
Ah, ben voilà une remarque importante que je pourrais utiliser
à
bon escient.
Le piéton doit être toujours prioritaire.
Non, c'est un vrai sujet par ailleurs, parce que c'est un sujet de société. Je suis d'accord avec vous. Alors, Madame Hervieux, donc nous parlions du réchauffement climatique, mais nous avons fait une petite digression qui n'est pas sans rapport.
C'est lié.
Donc peut-être en conclusion, nous préciser un petit peu votre sentiment par rapport à l'actualité de cette question brûlante et un petit peu vos attentes et le combat que vous souhaitez mener pour la suite dans un moment difficile sur cette question.
Alors, on parlait des gens qui ont conscience de ça. Je pense que ne pas renoncer à se battre pour le climat, je pense que les gens le comprennent tout à fait. Après, comment ça se traduit en termes de politique publique, effectivement, c'est un combat, là, pour le coup, de remettre ça en haut de la pile des priorités, que ce soit au niveau Union européenne, au niveau français, mais au niveau mondial, puisque, on a... Je ne veux pas faire une focale sur M. Trump, mais je pourrais aussi parler de M. Poutine, qui préfère faire des guerres plutôt que de s'atteler aussi à cette question. Du côté des Chinois, il y a des choses qui se mettent en place, mais c'est à base de technosolutionnisme qui prennent aussi des ressources. On connaît l'enjeu sur les terres rares, mais pour les extraire par rapport aux besoins énergétiques de leur extraction pour sortir du carbone, on amoindrit, on diminue, enfin en tout cas on fragilise tout ce qui est de la biodiversité. C'est pas le technosolutionnisme qui va trouver la martingale à lui tout seul de la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Si on doit continuer à surconsommer des choses qu'on jette très rapidement, les déchets, on ne sait pas quoi en faire, ou ça va polluer d'autres pays. Ça pollue nos sols, mais aussi les rivières, puisque beaucoup sont déversés dans les rivières. Et beaucoup de produits sont faits à base de pétrole qui se délite et qui contamine l'eau. Et on a un problème là qui est en train d'émerger avec la question de l'eau potable. Est-ce qu'on va avoir assez d'eau potable pour nos besoins vitaux, nos besoins essentiels, les besoins de l'humanité d'ici quelques années, vu tout ce qu'on déverse dedans du fait de nos modes de vie. Et là, de toute façon, c'est généralisé à l'échelle planétaire.
Très bien, merci Madame Hervieux. Donc, nous étions avec Madame Hervieux, députée de Côte d'Or, de la deuxième circonscription, et nous avons parlé de la question du dérèglement climatique. À très bientôt sur Shalom Bourgogne.
À bientôt, merci.
Ma ville, ma région, l'actualité de Dijon Métropole.